Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Fé. La collective, c'est tout de suite sur Radio Saint-Fé, mais aujourd'hui, elle n'est pas en direct. Pour l'occasion, on vous propose une rediffusion d'une émission qui a été enregistrée lundi dernier, le 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, la lesbophobie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse à l'écoute. Rebonjour à tous. Dans cette journée dédiée à la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie sur Radio Saint-Fé, on prend un peu de distance et on dézoome. On va s'intéresser à ce qui se passe à une échelle plus grande, à l'échelle de l'Europe, puis à l'échelle internationale, aux États-Unis. Alors pendant cette petite heure d'émission, on va d'abord faire un rapide état des lieux de la situation en Europe en se concentrant un peu plus sur les pays qui régressent et où la situation est déjà problématique. Et on va tenter d'explorer les leviers qu'a l'Europe pour protéger les personnes LGBT. En deuxième partie d'émission, on aura le témoignage d'Ania qui vit à Wrocław en Pologne, un des pays où règne une homophobie d'État. Et puis, en fin d'émission, on s'intéressera aux États-Unis et plus précisément aux politiques qui sont menées à l'égard des jeunes transgenres avec Jennifer Gay qui est militante lesbienne féministe et qui s'intéresse de près à ces problématiques et qui est déjà dans le studio avec moi. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors au bout du fil, on a Mélanie Vogel. Mélanie qui nous appelle depuis Bruxelles et qui est membre de la direction du Parti Vert Européen où elle s'occupe précisément des questions LGBT. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors, on va commencer par quelques chiffres pour situer un peu la situation en Europe. En Europe, en tout cas dans les États membres de l'Union européenne, l'homosexualité est légale dans tous les États, mais les États ont différentes législations en ce qui concerne les protections. Par exemple, 13 États reconnaissent le mariage entre personnes du même sexe, tandis qu'à l'inverse, 7 États définissent constitutionnellement le mariage exclusivement comme l'union d'un homme et d'une femme. Ces États, c'est la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie. Et puis, on peut aussi préciser que l'adoption homoparentale est légale dans 12 pays de l'Union européenne. Voilà pour quelques chiffres très très rapides. Mélanie, je reviens vers toi. C'est quoi ton rôle à toi au sein de la direction du Parti Vert européen, toi qui t'occupes des questions LGBT?
Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Je profite de cette occasion pour faire un petit peu de publicité pour les partis politiques européens, parce que je pense que peu de gens sont au courant du fait que la politique s'exerce pas que au niveau national. Donc, dans la direction du Parti Vert européen, nous sommes 9 membres de 9 pays différents, de partis écologistes européens différents. Je m'occupe de beaucoup de choses en réalité, pas que des questions LGBTI, mais aussi de celles-là. Et dans ce cadre-là, ce qu'on fait beaucoup, c'est mener des campagnes en commun entre les partis écologistes au niveau européen et pousser des combats dans certains pays. C'est le cas, par exemple, de la loi, par exemple, qui est à l'agenda en Italie pour criminaliser les LGBTI-phobes, des campagnes contre les zones sans LGBT en Pologne, etc. Et ce qu'on fait aussi, ce qui est très important, c'est d'essayer de construire entre tous les écologistes en Europe des positions communes et des campagnes communes.
Merci Mélanie. Je te propose qu'on fasse un point rapide sur le cadre légal qui existe en Europe. Alors j'ai fait des recherches, tu m'arrêtes s'il y a des erreurs. J'essaye de résumer, ce qui n'est pas simple. Alors, il y a eu d'abord le traité d'Amsterdam, ou traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui évoque dans deux de ses articles des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, des dispositions qui ont été adoptées il y a un tout petit peu plus de 20 ans. Et puis, on peut citer aussi la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit là aussi la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Et elle s'est poursuivie par une directive cadre une année plus tard, en 2000, directive cadre qui concerne l'emploi, à travers laquelle les États membres sont contraints à légiférer contre toute forme de discrimination dans l'emploi, qui inclut les discriminations liées à l'orientation sexuelle, mais aussi à l'identité de genre. Et puis, donc il y a un cadre légal, et puis il faut savoir que les États européens ont tous signé un traité international qui s'appelle la Convention d'Istanbul, c'était il y a 10 ans, un traité qui vise à poser un cadre juridique autour des violences faites aux femmes et qui prévoit d'une part la prévention des violences, la protection des victimes et puis la fin de l'impunité des auteurs de violences. Signer cette convention, ça veut dire pour les États membres prendre une série de mesures. Mélanie, dans quelle mesure et de quelle manière cette convention, cette convention d'Istanbul, qui est directement liée aux violences à l'égard de femmes, intègre aussi les droits des personnes LGBT? Est-ce qu'elle les mentionne directement, par exemple?
Alors, c'est intéressant que vous parliez de la Convention d'Istanbul parce que ce qui est intéressant de la Convention d'Istanbul, c'est que a priori, c'est une convention pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle intègre dans ses définitions, dans la définition des violences et dans ce qui est requis, le concept de la violence basée sur le genre. Et donc, elle admet en réalité que les violences faites aux femmes s'entendent dans un cadre plus large de violences basées sur le genre et donc de violences patriarcales. Et elle définit le genre non pas comme comme une réalité biologique, mais comme une construction sociale. Et évidemment, les violences qui s'exercent contre les personnes LGBTI et les violences qui s'exercent contre les femmes et contre les filles sont du même ordre. Ce sont des violences liées à l'hétérosexisme. Et cette convention, même si elle a pour but principal de lutter non pas contre les violences contre les personnes LGBT en général, mais plus particulièrement contre les femmes et donc aussi les femmes hétérosexuelles dans des relations ou des histoires hétérosexuelles, elle contient cette idée que la violence patriarcale est fondée sur le genre. C'est pour ça que de nombreux États, gouvernements, forces réactionnaires, conservatrices, homophobes et LGBTI-phobes détestent cette convention et essayent de s'en extraire et de construire un autre ordre juridique qui protégerait ce qu'ils appellent la famille traditionnelle, qui est en réalité un cadre de relations, de domination patriarcale.
Alors justement, on va en parler de ces pays, parce qu'en préparant cette émission, tu me disais que certains pays étaient à la pointe en matière de droit, mais que d'autres étaient catastrophiques, d'autres même régressaient. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des pays dont on va pas forcément qu'on va pas forcément développer ici, qui seraient entre guillemets à la pointe en matière de droit, et puis après on parlera des autres plus précisément. Ouais.
Alors bon, déjà, si je peux dire une première chose, c'est que quand on regarde l'Union européenne dans son ensemble, c'est quand même pas brillant. Hein. C'est-à-dire qu'on a plus de la moitié des États européens qui sont considérés comme ne respectant pas les droits LGBTI, 52% pour être précise, et à part Malte, qui est au-delà de, je crois, 94% de respect des droits LGBTI, qui n'est quand même pas une société exemplaire, parce que par ailleurs, et c'est un paradoxe, à Malte, l'avortement est absolument illégal. Donc voilà, il y a d'autres types de violences patriarcales qui sont toujours profondément ancrées à Malte, mais sur les questions des droits LGBTI, il y a Malte qui est à 94%, et ensuite, tout de suite après, on a la Belgique, qui est déjà que à 74% de respect, ce qui est donc n'est pas brillant, et donc 52% qui sont en tout 50%. Globalement, si on veut faire une photographie d'ensemble, on a l'Europe, disons, de l'Ouest et du Nord qui est plutôt mieux que l'Europe de l'Est. Pour les États qui fonctionnent bien, voilà, c'est surtout l'Ouest et le Nord. Mais je pense que ta prochaine question, c'est là où ça ne va pas, c'est ça ?
Oui, alors ce sera la prochaine encore, parce que j'ai juste une question. Comment sont calculés ces pourcentages ?
Alors, en fait, c'est l'ILGA qui fait un rapport chaque année et les rapports sont disponibles en ligne. Il y a une petite difficulté, c'est que leurs indicateurs évoluent dans le temps, ce qui est normal, mais qui rend parfois la comparaison entre les années pas totalement évidente parce qu'il y a des indicateurs qui apparaissent certaines années qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui peuvent changer le rang des États. Mais voilà, ils ont des domaines, par exemple, droit de la famille, est-ce que le pays a l'égalité dans le mariage, la non-discrimination, est-ce qu'il y a des lois pour interdire la discrimination dans l'emploi, la santé, etc. Donc il y a une série d'indicateurs et ils notent chaque pays en fonction de ces indicateurs et ça fait un score global à la fin.
Ok, merci pour ces précisions. Du coup, on peut parler justement des pays, de certains pays, comme par exemple la Pologne, qui a annoncé qu'elle souhaitait se retirer de la Convention d'Istanbul. Dans peu de temps, au 1er juillet, il y a la Turquie qui devrait partir et la Pologne aimerait la suivre. Qu'est-ce que ça implique en Pologne?
De se retirer de la Convention d'Istanbul. Bon,
Oui.
alors, ce que ça implique, c'est que la Convention d'Istanbul, c'est un traité international qui a, du Conseil de l'Europe. S'en retirer, ça implique cesser de garantir une protection juridique aux femmes et aux filles victimes de violences basées sur le genre. Alors, c'est pas que la Pologne était disons très performante sur cette question-là, mais en s'en retirant, la Pologne et la Turquie bientôt, disons, envoie le signal que elle ne compte pas respecter des engagements internationaux qui ont vocation à éliminer la violence patriarcale. Et elles indiquent donc que plutôt que de faire ça, elles se replient vers des formes juridiques qui permettent plutôt d'encadrer l'inverse. Donc c'est aujourd'hui, disons du jour au lendemain, comme la Pologne ne respectait pas totalement la Convention d'Istanbul, j'ai envie de te dire, malheureusement, ça ne va pas changer beaucoup, mais ce que ça veut dire, c'est que ça prive les femmes polonaises de tout espoir à court terme. Si la Pologne le fait, ça n'est pas encore fait, mais si la Pologne le fait, ça prive les femmes polonaises de l'espoir que les législations en Pologne vont changer pour respecter la Convention d'Istanbul, puisque la Pologne dit, nous ne comptons même pas essayer de respecter ce traité international.
Justement, qu'est-ce qui te fait dire que la Pologne ne respecte pas aujourd'hui la Convention d'Istanbul?
Alors, la Convention d'Istanbul, c'est un instrument juridique qui est très large, qui contient beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps là de faire toute la liste. Mais, par exemple, une chose qui est très importante, qui est un des grands acquis de la Convention d'Istanbul et que la France ne respecte pas non plus, c'est la définition des violences sexuelles et notamment du viol, qui doivent être, selon la Convention d'Istanbul, fondées sur l'absence de consentement. Et par exemple, c'est quelque chose qui en France n'est toujours pas le cas. Tu sais peut-être que pour aujourd'hui en France, pour pouvoir démontrer enfin, on définit pénalement le viol comme un acte où il y a dû y avoir violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de ne pas être consentante ne suffit pas à qualifier un acte sexuel de viol. C'est pourtant ce qui est obligatoire d'après la Convention d'Istanbul, ce qui n'est pas le cas en Pologne, ce n'est pas non plus le cas en France. La Convention d'Istanbul, elle a été signée par tous les États européens, elle n'a pas été ratifiée par tous les États européens, elle n'est pas appliquée entièrement par tous les États européens, malheureusement, y compris en France.
Et puis en Pologne, on peut qualifier la Pologne aujourd'hui, enfin depuis 2015 et l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice, on peut les qualifier la Pologne d'État homophobe?
Bah, en tout cas, c'est toujours compliqué d'appliquer des qualificatifs à un État parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que on observe dans certains États, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, un recul et qui s'est encore plus renforcée au moment de la crise sanitaire. C'est pas le cas que dans ces pays-là. Hein. La situation des personnes LGBTI s'est détériorée dans toute l'Europe au moment de la crise sanitaire, comme la situation des femmes. Hein. C'est toujours les publics les plus marginalisés qui souffrent le plus en temps de crise. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a en Europe des États, c'est le cas de la Pologne et de la Hongrie, où on a des gouvernements qui s'appellent anti-libéraux, qu'on peut appeler autoritaires, qui ont comme agenda politique de s'en prendre aux droits des femmes et aux minorités sexuelles et de genre. Et ce qu'on voit, et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est qu'au fond, l'attaque en règle contre les droits et libertés fondamentales en général va toujours de pair avec l'attaque contre le droit des femmes et des personnes LGBTI. Et donc, c'est pas une affaire de. Faut pas penser que les droits LGBTI, c'est un problème de niche, ça concerne que quelques personnes et donc ce serait moins important que d'autres sujets. Quand on s'attaque, on voit que c'est souvent les premiers publics. Avec les personnes issues de l'immigration, avec les femmes qui sont les premières victimes, ce sont jamais les dernières.
Tu parlais aussi un petit peu plus tôt dans l'émission de la situation de l'Italie.
Ouais. Oui, bah l'Italie, en fait, c'est pour ça que je disais au début, c'est quand même pas glorieux, disons, dans l'Union européenne, c'est pas qu'on a des situations merveilleuses et d'autres terribles. On n'a pas beaucoup de situations merveilleuses. Et par exemple, l'Italie, dans le classement de l'ILGA, est pire que la Hongrie. Il n'y a, par exemple, en Italie, il n'y a aucun cadre légal pour criminaliser les violences contre les personnes LGBTI. Ça n'existe pas. C'est l'objet de la loi qui est actuellement en examen. Et que nous soutenons, voilà, il n'y a pas non plus le mariage, etc. Enfin bref. Donc oui, non, l'Italie, par exemple, qui est un pays, voilà, fondateur de l'Union européenne, etc. Et terrible pour les droits LGBTI. Et c'est une situation juridiquement. Je ne parle pas forcément du climat, etc. Mais vraiment juridiquement, c'est pire que la Hongrie.
Alors, de quelle manière l'Europe peut avoir des
Ouais.
leviers pour agir
Ouais, alors là-dessus, justement, je voulais revenir sur ce que tu as commencé à expliquer au début sur le traité d'Amsterdam, etc., la Charte des droits fondamentaux, parce que c'est pas toujours facile à appréhender, c'est un peu de technique juridique. Donc, en gros, dans les traités européens, il y a un article qui cite quelles sont les valeurs de l'Union européenne. C'est l'article 2. Et dans les valeurs de l'Union européenne, il y a la lutte contre toutes les discriminations, y compris discriminations fondées sur le genre et sur l'orientation sexuelle. Le problème, c'est que ces valeurs de l'Union ne sont pas ce qu'on appelle en droit européen une base légale, c'est-à-dire que ce sont les valeurs de l'Union que les États s'engagent à respecter, mais l'Union européenne n'a pas la compétence de légiférer dessus. Donc l'Union européenne ne peut pas légiférer pour le mariage pour tous dans toute l'Union européenne. Ce n'est pas une compétence de l'Union. La Charte des droits fondamentaux, qui aussi interdit la discrimination contre les personnes LGBTI. Le petit problème juridique que nous aimerions résoudre, c'est que cette charte ne s'applique aux États, c'est un petit peu technique, je suis désolée, elle ne s'applique aux États que lorsqu'ils appliquent du droit européen. C'est-à-dire que s'il y a un règlement européen sur telle chose, quand ce règlement européen est appliqué, vous devez respecter la Charte des droits fondamentaux. Mais si vous appliquez une législation nationale, comme c'est le cas par exemple de toutes les législations sur le droit familial, eh bien vous n'êtes pas tenu de respecter la Charte des droits fondamentaux. C'est pour ça qu'il y a encore en Europe de nombreux pays où le mariage le droit du mariage discrimine en fonction de l'orientation sexuelle. Néanmoins, on peut faire des choses. Et parce que l'Union européenne a des compétences que je dirais indirectes, c'est-à-dire, par exemple, l'Union européenne a la compétence d'assurer la liberté de circulation et la liberté d'établissement. Et il y a eu un arrêt très important de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est là qu'on voit que c'est souvent la jurisprudence en fait qui construit le droit plus que les lois. C'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Coman. Et en fait, c'est un couple roumain et américain qui vivait en Belgique, qui s'est marié, un couple de même sexe. En Roumanie, c'est le mariage pour les personnes de même sexe n'est pas légal, mais la liberté de circulation et d'établissement dans l'Union européenne est un droit fondamental. Et donc, ce couple a voulu retourner en Roumanie, et la Roumanie leur a refusé la reconnaissance de leur acte de mariage, puisque le mariage pour tous n'est pas légal en Roumanie. Et donc, ils ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit qu'en fait, le droit, la liberté de circulation et d'établissement était au fond plus important et que donc la Roumanie ne pouvait pas les discriminer sur la base du fait qu'en Roumanie ce n'était pas légal de se marier parce que le droit, la liberté de circulation et d'établissement primait. Et donc avec des dispositions comme ça, on arrive progressivement à faire avancer le droit de manière indirecte, notamment grâce à la liberté fondamentale de circuler dans l'Union européenne qui est garantie et qui permet de condamner des États qui vous empêchent de circuler parce qu'ils ne reconnaissent pas vos actes d'adoption, vos actes de mariage, etc.
J'ai lu en faisant des recherches sur Internet un article de Têtu qui titrait en septembre 2020, dans un discours fort, la présidente de la Commission européenne s'engage pour les LGBT. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle
Ça
manière
veut
elle peut
dire
s'engager?
que. Alors, il y a eu en novembre dernier la publication, et je dois dire que c'est une avancée, hein, même si à ce stade elle est symbolique, mais c'est une avancée. Publication d'une stratégie pour les droits LGBTI en Europe 2020-2025. C'est la première fois que ça arrive, donc il faut le saluer. Il y a une volonté de la Commission européenne de s'emparer de ce sujet. Et donc il y a une série de propositions qui sont à l'intérieur. Le problème, c'est que bon, beaucoup de choses manquent. Et il y a, comme j'essayais de le dire au début, il y a aussi des compétences européennes qui manquent. Mais voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une stratégie qui a été publiée par la Commission européenne qui doit se traduire par un certain nombre de législations, mais surtout par un certain nombre d'encouragement des États à faire mieux, d'observation, de collection de données, etc., qui ne sont pas toujours des avancées concrètes. Nous, ce qu'on demande, on soutient cette stratégie, hein, les écologistes ont reçu positivement cette stratégie. Le fait qu'elle existe, c'est très important, mais on demande qu'elle soit complétée par beaucoup de dispositions législatives. Voilà. Et qu'en parallèle de faire progresser ces droits-là, la Commission européenne ait le courage également de s'attaquer aux États qui violent ces droits-là, et notamment la Pologne avec la mise en place de ce qu'ils appellent des zones sans LGBT. Nous considérons, nous avons beaucoup de juristes qui considèrent, et je pense qu'il y a de vraies raisons de considérer, qu'en faisant ça, la Pologne viole certaines dispositions du droit européen. Et ce qu'on demande, c'est que la Commission européenne attaque la Pologne en justice pour faire respecter ses droits.
Eh bien, merci Mélanie. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué avant la fin de cette interview? La question est vaste, hein.
Bah, on est le 17 mai et je crois que voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon 17 mai. C'est l'occasion de dire haut et fort que depuis 2017, je sais qu'on a pleuve aujourd'hui des tweets, etc., de la majorité présidentielle pour dire que c'est très important les droits LGBTI. Il faut rappeler qu'il n'y a eu aucune amélioration des droits LGBTI en France depuis cette majorité. On attend toujours l'adoption de la loi bioéthique avec la PMA pour toutes, l'interdiction des thérapies de conversion, l'interdiction des mutilations des personnes intersexes et j'en passe. Donc, profitez de cette journée pour dire haut et fort que les discours, c'est joli, mais les actes, c'est mieux.
Merci Mélanie. Tout à l'heure, on aura Ania au téléphone qui habite en Pologne et puis qui
En
pourra
Pologne.
témoigner de la situation sur place. On va écouter maintenant un morceau de musique avant d'appeler Ania. Ça s'appelle De mon âme à ton âme. C'est de Compromat avec la participation d'Adèle Haenel. Merci Mélanie.
Merci.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair.
von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme à ton âme.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Ferréol, mais aussi sur RDIWA. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie. Et à cette occasion, on est des petites fourmis à Radio Saint-Ferréol et on s'affaire pour vous proposer 8 heures de direct à la suite. Ça a commencé ce matin à 9h. On continue jusqu'à 17h. 8 heures de direct avec plein d'invités différentes qui viennent nous parler de l'homophobie, homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie, de la situation pour ce créneau-ci, de la situation en Europe et à l'international. Et justement, tout à l'heure, j'avais au bout du fil Mélanie Vogel depuis Bruxelles et maintenant, c'est Ania que j'ai au bout du fil. Ania qui nous parle depuis la Pologne et c'est pour ça qu'il y a un petit délai entre sa, mes questions et ses réponses parce qu'on est loin et que tout ça passe par Internet. Bonjour Ania.
Bonjour Aloïse, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors quand on a préparé cette émission, tu m'as précisé que tu te sentais plutôt privilégiée en tant que lesbienne et que tu avais de la chance parce que tes parents sont très présents pour toi et tes parents à toi et ceux de ta compagne se connaissent et se côtoient. Vous vivez toutes les deux dans une grande ville, elle s'appelle Wrocław, une ville que tu considères plutôt ouverte aussi du fait que c'est international, on y trouve plusieurs multinationales. Est-ce que ça signifie que culturellement l'homosexualité est plutôt mal accepté en Pologne?
Oui, j'ai écouté un peu le début de l'émission et tu as demandé à Mélanie si la Pologne pouvait être considérée comme un État homophobe. Donc je dirais que la réponse serait oui, la Pologne peut être bien considérée comme un État homophobe des côtés de la politique, donc de la partie au pouvoir et le président. Et par contre, la société, si, est-ce que la société est homophobe? Je dirais que beaucoup moins. Et ça se voit qu'on a un peu les deux narratives, je dirais. La narrative de réalité, la réalité narrative, où dans les médias, les politiciens disent que le lobby LGBT est terrible. Qu'on ait une idéologie où les personnes religieuses déclarent qu'on est un vrai ennemi public ou un danger, et puis la réalité vécue quotidienne où on a des amis, où au travail ça va, inclusion est considérée comme importante et tout. Donc ça dépend beaucoup où on se trouve en Pologne, et la situation dans les grandes villes est beaucoup meilleure que dans les petits villages. Mais la société, dans la société, l'atmosphère est beaucoup meilleure que dans la politique, je dirais.
Toi, tu viens d'une petite ville qui s'appelle Ouch. C'est à 200 km à peu près de là où tu habites. Et tu sens vraiment une différence entre les deux villes?
En fait, les deux villes sont comparables du point de vue de la taille. Je vois déjà une petite différence parce qu'à Wrocław, on a plus de multinationales et la ville est beaucoup plus près de l'Allemagne. Et Łódź est un peu dans le centre de la Pologne. Et soit les gens vont partir à Varsovie pour travailler dans la capitale, soit il n'y a pas beaucoup de multinationales et tout, donc on est un peu plus polonais, quoi.
Alors, tu as parlé tout à l'heure hein, de ce parti au pouvoir qui s'appelle Droit et Justice, qui est là depuis 2015. Tu as dit qu'on pouvait parler d'un État homophobe. Tu as même dit que c'était que la communauté LGBT était, selon toi, l'ennemi numéro un. Ça se traduit comment?
Ça se traduit, par exemple, du fait que le président dit que l'idéologie LGBT est un danger pour la famille traditionnelle. Et il dit ça pendant la campagne présidentielle. Et à l'église, c'est la même chose. Les prêtres, ils disent que on a, je ne sais pas comment exactement ils ont dit, mais le lobby arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Donc ça se voit, ça s'entend, et les politiciens, chaque politicien de la partie en pouvoir, il est homophobe, quoi.
Et comme disait Mélanie dans l'interview précédente, il y a des territoires, plutôt des villages qui sont des zones sans LGBT. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Oui, en fait, je n'ai jamais vécu dans une zone comme ça en Pologne, et elles sont surtout concentrées vers l'est de la Pologne. Donc, je crois qu'on sent la proximité de la Russie là-bas. Mais j'ai parlé avec une personne qui vit dans une de ces zones. Et en fait, c'est un choix des résolutions qui sont plus ou moins homophobes, plus ou moins ouvertement homophobes, qui peuvent être appliquées par une municipalité ou région ou département. Et ça ouvre l'espace public au discours ouvertement homophobe. C'est un peu la même chose. On peut comparer au Brexit, où quand l'Angleterre a dit qu'ils vont sortir de l'Union européenne. Du coup, par exemple, les Polonais, mes amis, ont commencé de se sentir beaucoup pire en Angleterre parce que les gens qui n'aimaient pas des migrants ont commencé à ouvertement déclarer qu'ils ne les aiment pas. Donc, c'est un peu la même chose dans le zone libre des LGBT. Là, les gens se sentent plus à l'aise en disant des choses terribles des fois. Et puis, même les gens qui seraient des alliés de la communauté LGBT se sentent beaucoup pire pour supporter. Donc, par exemple, dans les écoles ou dans la bibliothèque, là où on invite parfois des associations qui sont liées à LGBT, comme un lien très indirect, mais Amnesty International, ils ont peur de les inviter maintenant. Parce que ça peut être traité comme pro-LGBT et ça peut mener au problème au travail.
Alors, l'été dernier, il y a une militante qui a été accusée d'avoir endommagé un van où étaient inscrits des propos homophobes. C'était à Varsovie. Ça a impliqué l'arrestation d'une cinquantaine de personnes qui s'opposaient à cette interpellation. Et puis, il y a aussi eu l'inculpation de trois personnes qui ont drapé des monuments de drapeaux arc-en-ciel. Depuis, il y a eu beaucoup de manifestations à Varsovie. Est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'à Wrocław?
Non, non, pas vraiment. C'est-à-dire, ben, oui, il y avait des événements, mais les gens n'étaient pas si nombreux qu'à Varsovie. Je pense que c'est encore une fois ce problème de deux narratives là, deux réalités, la réalité narrative et quotidienne, parce que à Varsovie, les symboles sont beaucoup plus près de la partie au pouvoir. Et bah, il faut dire que si on met un drapeau sur une figure, sur une sculpture, c'est un symbole, quoi. Ça ne donne rien à la communauté, ça ne change rien pour les citoyens, c'est juste un symbole des luttes, symbole des inégalités, etc. Donc c'est. Oui, je pense que c'était surtout Varsovie qui était affectée parce que c'est là qu'on sent cette pression de la partie au pouvoir le plus, je pense.
Alors toi qui es polonaise, toi qui vis en couple avec une femme en Pologne, qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Est-ce que tu crains que les choses se détériorent à l'égard des personnes LGBTI?
Oui, si j'ai craint, oui, j'ai craint, bien sûr. Parce que, oui, si on voit les inscriptions vulgaires sur le mur, etc., on commence à avoir des doutes. Mais de l'autre côté, je pense que Gandhi, un jour, a dit que d'abord, il vous ignore, ensuite, il se moque de vous, et puis, il vous combat, et enfin, vous gagnez. Donc, j'essaie de me dire que on est sur cette étape où on est combattu, donc on est très près de gagner.
Je te remercie beaucoup, Anya, d'avoir pu témoigner depuis la Pologne. Je crois que c'est une journée où tu travailles et d'avoir pris ce temps-là pour pouvoir participer à cette émission. On va écouter un morceau de musique et juste après, on va retrouver Jennifer dans le studio de Radio Saint-Fé qui va nous parler des États-Unis et des lois qui sont en cours à l'égard des jeunes trans. Mais d'abord, on écoute un morceau de George Michael et ça s'appelle Outside. Merci, Anya.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, c'est le 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Sur Radio Saint-Fé 94.2, on vous propose 8 heures de direct. Et puis, c'est rediffusé aussi en direct sur RDIWA. Un petit coucou au DIWA. Dans ce créneau, on parle du sujet, mais au niveau européen. Et maintenant, on passe à l'international. Dans le studio aujourd'hui, il y a Jennifer Gay. Jennifer, tu as dit bonjour tout à l'heure, j'allais te redire bonjour, mais on va pas recommencer. Tu es militante féministe lesbienne. Tu vis en France depuis longtemps et tu as notamment participé, entre autres, à l'organisation de la Marche des Fiertés à Cray en 2013, au moment où le mariage homosexuel devenait légal et contre lequel notre maire, Hervé Mariton, se soulevait férocement. Tu es américaine et tu es là pour nous partager la situation aux États-Unis, notamment pour les jeunes trans, puisque en ce moment, il y a des projets qui ont été étudiés sur l'ensemble du pays, des projets plutôt transphobes, homophobes, aussi. Est-ce que tu peux nous en parler?
Avec plaisir, merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est vrai que la Marche des Fiertés était un grand moment dans l'histoire de Cray et du militantisme local. On se réjouit encore de ces moments. En ce qui concerne les États-Unis, c'est important de rappeler que comme l'Europe, c'est pas un système fédéral, et que donc les situations sont très variées d'endroit en endroit, d'État en État, et de ville en ville, en fait. Et je pense, comme Anya a pu témoigner, la situation pour les personnes qui habitent en zone urbaine aux États-Unis est relativement confortable. On le voit par le résultat électoral. Les gens qui habitent en ville votent de gauche. Ils vivent dans des communautés qui ne sont plutôt pas homophobes ou transphobes. Après, ces villes se situent dans des États et les États sont contrôlés, selon là où on habite dans le pays, par des gens de droite, voire d'extrême droite. Et l'analyse se dit que depuis, en fait, la légalisation du mariage pour tous, les gens de la droite et l'extrême droite qui se focalisent tellement sur l'empêchement de cette évolution sociétale et légale se sont maintenant déversés dans la lutte contre les personnes trans. Parce que ça reste un levier culturel. Aux États-Unis, on parle très souvent de problématiques de guerre de culture. Parce que la droite, en gros, c'est un avis, mais je pense qu'on peut le partager, n'a plus rien à proposer à la population en ce qui concerne l'amélioration sociale, économique, des personnes qui sont exclues ou qui souffrent, que ce soit d'une exclusion sociale, économique, politique ou autre. La droite joue sur un clavier culturel. Et ce clavier culturel, en France, joue sur l'immigration, sur la stigmatisation des personnes d'origine étrangère, sur l'homophobie, sur les droits des femmes, cette question de cancel culture, toutes ces questions-là sont des jeux, en fait, pour les politiciens de droite. Et moi, j'aime bien avertir que la France, bon an, mal an, finit par emboîter le pas aux États-Unis et s'avertir, en fait, de ce qui se passe. Donc, concrètement, ce qui se passe dans les États par rapport à la transphobie, c'est qu'il y a eu plus d'une centaine de projets de loi dans environ 30 États, principalement dans le sud et l'ouest, mais pas exclusivement. Les lois ont été votées dans des États comme l'Arkansas, le Mississippi, la Floride, le Texas, portant sur deux sujets différents, et donc selon l'État et selon les projets de loi, soit c'est médical, c'est-à-dire qu'on va viser à interdire les traitements pour les jeunes, les mineurs, les bloquants de puberté, qui sont les traitements qui sont proposés aux jeunes personnes trans, qui... On ne peut pas intervenir avant 18 ans de façon permanente sur l'identité de genre de quelqu'un, sur son expression de genre, mais on peut aider cette personne à avoir du temps pour se stabiliser dans ses choix. Et ça, avant l'âge de 18 ans, on peut avoir des traitements hormonaux. Donc, il y a des projets de loi qui visent à interdire ces traitements, voire les enlever des personnes qui les reçoivent déjà, voire même enlever la garde des parents qui soutiendraient leurs enfants dans leur exploration de leur identité de genre.
Et ça, ce sont des lois très récentes. Hein.
Très récentes, oui. Depuis quelques mois, depuis que la droite, en fait, vire dans des questions. Enfin, c'est des idées qui existent, mais en fait, l'énergie derrière ces lois est assez récente. L'autre volant de cette initiatives, de ces initiatives, c'est se concentrer sur le sport et tout particulièrement interdire la pratique du sport pour les jeunes filles trans. Sous prétexte, et ça c'est là, je fais le lien avec la France, sous prétexte de défendre les droits des filles à l'accès égal à la pratique du sport. Donc on va défendre les filles, parce que on sait bien la droite se soucie beaucoup de la droite des femmes et des filles, donc on va se mobiliser pour dire mais il est complètement inadmissible que les filles se voient menacées par l'arrivée des personnes qui sont pas vraiment des filles pour leur prendre le podium pour qu'elles ne puissent pas concourir dans la natation, le tennis, le basket, on s'en fout de quel sport. C'est un non-sujet. Ça a eu lieu peut-être une fois dans un état il y a 3 ans, une personne a eu un podium dans je ne sais pas quel sport. C'est un non-sujet, on sait bien que les enfants trans participent beaucoup moins dans les activités sportives que les enfants cis, mais ils ont mobilisé ça et de façon tellement cynique pour mobiliser cet argument, donc les mères de filles qui se battent pour que leurs filles puissent participer au sport se font prendre un peu de ce jeu pour dire mais c'est pas juste, il y a des garçons qui vont jouer, vont s'annoncer, moi je suis une fille, donc je joue maintenant sur l'équipe de filles. Et c'est un non-sujet que la droite utilise là pour manipuler vraiment une haine, pour cultiver une haine chez des gens qui n'en avaient pas, en fait, avant.
Et tu sais comment... donc toi, j'imagine, toi, tu t'intéresses aux médias, et
oui,
peut-être des personnes sur place aussi qui te racontent. Est-ce que tu sais comment les personnes réagissent sur place? Est-ce qu'il y a des associations qui réagissent?
Il y a énormément de personnes qui se mobilisent dans tous les États, comme je disais. Donc les États, enfin, rentrer dans les détails de la politique électorale américaine, c'est un puits sans fond. Mais dans tous les États en question, il y a des villes, il y a des personnes, il y a des familles. Et comme toute famille qui reçoit un enfant en son sein, qui soutient et aime cet enfant, si cet enfant se pose des questions sur son identité de genre, va l'accompagner. Donc, c'est des personnes très diverses qui ont témoigné. Donc, on a voté des lois. Après, il faut que les lois soient signées par le gouverneur. Jusqu'ici, il y a eu très peu qui ont été vraiment... qui sont entrés en vigueur. Parce que, après, une fois que le gouverneur signe, après, on va... tester devant les tribunaux la constitutionnalité de ces lois. Et ça reste une question assez vaste aussi. Mais il y a eu des gouvernants qui ont refusé de signer particulièrement les lois sur les soins médicaux, parce que, en fait, c'est assez clair que c'est anticonstitutionnel, mais aussi parce qu'ils ont reçu des témoignages de familles très, très variées qui ont dit mais le résultat de ces lois, ça va être le suicide de jeunes personnes qui vont être privées de soins et de soutien dont ils ont absolument besoin.
Est-ce que tu aurais des, je sais pas, des références ou des sites internet que pourraient consulter les Français pour suivre un peu cette actualité-là aux États-Unis?
En anglais, alors évidemment. Ouais. Il y a le ACLU, c'est l'association pour les droits civiques aux États-Unis, et qui a un programme qui s'occupe, en fait, c'est vraiment la question de la légalité de ces initiatives. Et c'est une association grande, donc ACLU.org, qui regroupe et qui est centrale dans l'opposition juridique à ces lois, une fois qu'ils sont votés, une fois qu'ils sont signés par les gouverneurs, de contester la légitimité. Et on peut, de là, partir dans plein de chemins différentes, quoi. Et les médias LGBT, QI, il y en a plein de... Ça grouille, les États-Unis, c'est un pays très, très grand et très divers, avec énormément d'initiatives, et on trouve plein d'informations. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Jennifer.
Je vous en prie.
Merci aussi à Mélanie et à Anya d'avoir répondu à mes questions. Sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fée, vous venez d'écouter une rediffusion d'une émission qui a été enregistrée lundi 17 mai sur Radio Saint-Fée. Pas de collective donc en direct aujourd'hui, mais cette rediffusion. La prochaine collective est prévue en direct ce jeudi midi. À bientôt.